Aujourd'hui, ce sera peut-être plus une méditation théologique. Alors, vous n'avez peut-être pas, non, ne prenez pas peur, ne partez pas tous en courant, etc. Même si vos neurones théologiques sont proches de l'état comateux, toujours est-il qu'on va essayer de les réveiller et de vous, voilà, faire rentrer dans le mystère avec les paroles humaines, et donc forcément complètement dépassées par le mystère de Dieu. Et c'est le mystère de la croix vu sous l'angle de la Trinité. En quoi la croix du Christ est l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils, ça paraît évident, mais aussi l'œuvre du Saint-Esprit. En quoi c'est une dimension trinitaire? Et je pense que c'est bien que vous ayez l'habitude, nous avons un Dieu, nous n'avons pas les mêmes dieux que les autres, je veux dire, nous n'avons pas le même Dieu que les autres, on a tous le même Dieu, non. On n'a pas le même Dieu que d'autres ont un Dieu tout à fait sympathique, mais jamais ils vous diront qu'ils ont un Dieu qui est communion de personnes. Jamais. C'est un Dieu compact, c'est un Dieu unique, le nôtre aussi est unique, mais il est communion de personnes. Donc, et ça, c'est le Dieu Trinité que Jésus est venu nous révéler. Hein, le Dieu amour, quand en son sein même, il y a une circulation d'amour. Donc apprenez aussi, et ça c'est vraiment le spécifique du chrétien, vraiment spécifique. Apprenez à voir les choses sous l'angle de la Trinité, de façon générale. Je pourrais vous dire bon, en quoi, par exemple, l'Eucharistie est trinitaire, hein, en quoi le sacrement du mariage est trinitaire, en quoi l'Église est trinitaire, etc. Donc, chaque dimension, chaque mystère de notre foi, en quoi la Vierge Marie exprime aussi quelque chose de la Trinité. Hein, vous voyez, donc là, on va voir la croix de façon spécifique, mais c'est bien que vous puissiez. Au plan théologique, comme chrétien, déjà vous former, parce que je m'adresse en tout cas à ceux qui sont jeunes professionnels, que je connais bien, parce que moi je suis assez impliqué auprès des jeunes professionnels. J'ai monté un groupe de jeunes professionnels à Compiègne, et puis SPI à Paris, spirituel et spiritueux. Comme on ne sait pas trop quoi faire pour attirer les jeunes, du coup on essaye de les emmener dans sous d'autres cieux, on va dire comme ça. Et moi, du coup, j'aime beaucoup votre génération. Je l'aime beaucoup, ben, ça c'est vrai. Par la préparation au mariage, par les groupes de jeunes pros, j'ai contact avec cette génération. Mais je constate aussi quelque chose. Je parle des catholiques, hein, ce sont ceux qui viennent à moi. Un décalage, un gap important entre votre formation pro, où vous êtes clairement montés en gamme les uns et les autres par des études supérieures, etc., etc., et votre formation SPI. La formation pro, mais la formation SPI, alors certains, à tout seigneur, tout honneur, certains, c'est vrai, ont fait des parcours comme par exemple Even, qui est vraiment un parcours excellent de formation, ou d'autres parcours un peu de biblique, etc. Mais des catholiques pratiquants, de ce que je peux voir, de la connaissance, il y a beaucoup de dimensions de prière, d'adoration, etc. Très bien, mais de connaissance. N'oublions pas que la foi est dans l'intelligence. La foi est dans l'intelligence. La foi, c'est élève l'intelligence à une réalité qui n'est pas accessible au sens, aux cinq sens. Donc, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, ça veut dire c'est pas assez. Du coup, c'est bien de se former et on a dans la foi catholique tout un corpus intellectuel extrêmement riche. Au plan théologique, c'est-à-dire théologique, c'est un logos sur Dieu, c'est-à-dire une parole sur Dieu, on peut dire, et le travail de l'intelligence, de la foi et de la raison. Hein, le pape Benoît XVI en a parlé durant son pontificat, l'unité de la foi et de la raison. C'est très important de dire pourquoi je prends la Trinité, pourquoi, et quelles implications ça peut avoir, on parle de la Trinité, etc. Bon, donc, cette question-là de. Du coup, fait partie dans votre formation les temps de retraite. Les temps de retraite font partie de la formation, hein, intellectuelle. Je trouve c'est parce que ça vous aide dans la foi. Ça, comment aimer ce qu'on ne connaît pas et comment connaître si on n'est pas enseigné et comment être enseigné si on ne s'approche pas de la communauté des croyants qu'est l'Église. Hein. Et donc, du coup, c'est par la retraite cette démarche que vous faites de vous former. Dans le cœur à cœur, mais les grandes joies, les joies intellectuelles, que ce soit au plan naturel, mais au plan spirituel, les joies intellectuelles sont les plus grandes joies. Quand Dieu, dans sa miséricorde, nous donne de comprendre quelque chose. On balbutie, bien sûr qu'on balbutie. Hein, le mystère de Dieu nous dépasse de partout. Hein, nous sommes la religion du vertige, hein, évidemment, hein, parce que nous portons nous-mêmes plus grand que nous-mêmes et tout ce que nous pouvons dire naît, c'est ce qu'on appelle la théologie apophatique. Apophatique, c'est-à-dire une théologie négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit que Dieu est bon, mais il n'est pas bon comme un homme est bon. On dit que Dieu est grand, mais comment il n'est pas bon. C'est par la négative. C'est-à-dire que on dit, mais il est beau, mais il est beaucoup plus bien meilleur que ce que pourrait n'importe quoi. Il est beau, mais bien plus beau que toute beauté, etc. Voilà. Donc, dans la théologie, on dit quelque chose, sachant que au fond, on balbutie et que c'est plutôt, voilà. C'est. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce travail de l'intelligence, qui est un travail qui est parfois ardu. Hein, le travail intellectuel, est certainement, un travail ardu, parce que. C'est vrai que plus. Parce qu'on ne voit pas, ça, on voit pas les fruits du travail intellectuel assez rapidement. Si vous, je sais pas quoi, vous venez à tondre la pelouse ici, si vous avez matière, si ça peut vous détendre, bon, pas pendant la retraite, mais après, du coup, bah, vous voyez passer à tondeuse, bam, vous entendez tout de suite, vous voyez le travail, et puis, bon, le fruit de votre travail. Le travail intellectuel, c'est un travail, ça demande beaucoup plus de temps pour avoir goûté les joies du travail intellectuel. C'est plus ardu de ce point de vue-là. Mais vous en êtes largement capable de par votre formation, etc. Donc du coup, voilà. Donc c'est intéressant de dire l'importance de la formation, donc de la théologie, et à partir de la Trinité. Et donc, on peut dire que, peut-être comme forme d'introduction, ou continuer l'introduction, c'est quelque part, le fait que la Trinité. Quand on contemple la croix, il y a quelque chose de l'œuvre de la Trinité qui nous est donné. Ça veut dire que il y a un mystère. Un mystère, ça veut dire quoi? Ça vient du mot en grec muo. Muo qui veut dire fermé. Il y a quelque chose qui fermé, plissé. On parle myope. Pas myope, ça vient de ce même. On plisse les yeux. Celui qui meuble, il plisse les yeux pour voir, etc. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous est fermé à l'intelligence naturelle du mystère de Dieu que la foi ouvre. Et donc, il y a quelque chose du mystère. Pour pouvoir y adhérer, il y a une attitude de foi, c'est-à-dire de confiance dans ce que Jésus nous dit dans les évangiles. Lorsqu'il parle du Père, hein, et lorsqu'il parle de lui-même, et lorsqu'il parle du Saint-Esprit. Du coup, c'est intéressant de voir que c'est encore un mystère plus grand lorsqu'on l'associe d'une certaine manière à la Trinité. Hein, et on se sent dépassé de toutes parts, parce que c'est l'objet du mystère, et c'est ça qui fait que c'est fécond, c'est que ça nous dépasse. Un autre point, on a l'impression, quand on contemple le mystère de la croix, à la fois d'une dispersion et à la fois d'une réunion. Ça veut dire quoi? Dispersion et réunion. Dispersion parce que on n'aura jamais une vision complète du mystère de la croix. Encore une fois, pour ce que j'ai dit précédemment, ça nous dépasse de toutes parts. Personne ne peut dire, Samon, j'ai fait le tour du mystère de la croix. Personne ne peut dire. Donc dispersion, d'une certaine manière. Bon. Mais réunion, dans le sens où ça rassemble la vie du Christ. Hein, le mystère de la croix réunit la totalité des mystères chrétiens. Tout mystère chrétien est marqué par le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est pour ça que ces jours saints sont absolument capitaux dans notre foi. C'est le cœur de notre foi. C'est le cœur du cœur. Donc, vraiment, je vous félicite d'avoir pris sur votre temps. Vous aviez certainement plein de propositions. Faire des balades à poney, etc., ou quoi qu'est-ce. Mais bon, toujours est-il que, voilà, c'est le cœur de notre foi. Et donc, le mystère de la croix réunit dans le sens où il est clair, c'est lumineux. Et la croix, elle est lumineuse. Et c'est intéressant de voir que le Christ ressuscite avec ses plaies, mais ses plaies lumineuses. Dans le beau film de Mel Gibson, La Passion du Christ, qui a déjà quelques années, lorsqu'il y a l'évocation de la résurrection, on voit un homme nu de profil et avec, on voit, il tend les mains et on voit comme fidèle à l'évangile, hein, de ses mains, hein, sortent des lumières, parce que il y a le soleil devant de la Pâque, et du coup on voit que ce soleil frappe ses blessures et traverse, comme pour dire, ses plaies sont lumineuses. C'est important de dire ça, c'est le mystère de la croix et à la fois est ténèbres et à la fois est lumière. C'est capital, ça. C'est comme quoi, comme la nuée dans le désert, vous vous rappelez, les peuples hébreux, la nuée dans le désert, qui était à la fois lumière pour le peuple hébreu, mais qui était ténèbres pour les Égyptiens. Qui était lumière pour ceux qui allaient vers la libération et ténèbres pour leurs poursuivants. Donc, c'est intéressant attention de ne pas simplifier les affaires, ça restera. Je veux dire, toujours, il y a dans toute notre vie de foi, il y a une dimension paradoxale. Mais le paradoxe, il est fécond pour l'intelligent et pour le cœur. Il y a des choses, on dira une chose et à côté, on dira l'inverse de ce qu'on vient de dire. Et c'est bien. Parce que sinon, c'est pas une foi, c'est pas une église, c'est une secte, c'est un endoctrinement. On vous dit, voilà les questions, voilà les réponses. Ben non. Si on croit que le Verbe de Dieu, le Christ est le Verbe de Dieu, celui qui dit Dieu, forcément, c'est pas simpliste. Et puis c'est un rabbin. C'est un rabbin, c'est-à-dire que le mode rabbinique manie en permanence le paradoxe, manie en permanence la contradiction. Pour précisément appeler d'autres questions. Il y a des questions, il nous donne des questions, le Christ, mais à nous de trouver les réponses. Et il nous donne des réponses, et à nous de trouver les questions, à quoi correspondent ces réponses. Mais jamais on vous donnera un truc tout fait, voilà. Parce que jamais le Seigneur ne vous demandera de passer à côté du travail de compréhension, d'intelligence et d'amour que demande sa parole. Donc, dispersion et réunion, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est aussi donc un mystère trinitaire, pas seulement christologique. Donc, n'éliminons pas trop vite l'Esprit Saint et la part du Père. C'est trinitaire et de ce point de vue-là, c'est aussi quelque chose de la gloire de Dieu qui transparaît à travers le mystère de la croix. C'est aussi, même si c'est un mystère douloureux, mais l'heure est venue. La gloire et la croix, c'est la grande œuvre du cardinal von Balthasar, de dire que cette heure de dérédiction, c'est-à-dire cette heure d'abaissement, cette heure de rejet, est aussi la manifestation de la gloire. Et ça, c'est Père, glorifie ton Fils. Et ça, c'est que la foi qui peut nous donner, et que la dimension trinitaire, on dit glorifie ton Fils parce que le Fils est glorifié par le Père. Et le Fils du haut de la croix nous envoie son esprit. Il remit l'esprit, c'est la première Pentecôte. Donc, l'initiative vient du Père, l'initiative de la croix. Le Fils est médiateur. Un petit mot sur médiateur. Médiateur, c'est pas pareil qu'intermédiaire. C'est quoi la différence entre médiateur et intermédiaire, hein? Vous savez, quand on parle du Christ, on dit il est le médiateur, unique médiateur entre Dieu et les hommes. L'intermédiaire n'appartient à aucune des deux parties. Il est entre les deux. Il est, par exemple, entre le client et le fournisseur. Il est entre le patron et l'ouvrier. Il est, voilà, entre, voilà, il est l'intermédiaire. Le médiateur, c'est absolument l'inverse. C'est que le médiateur, il appartient aux deux parties. Le médiateur, il appartient à Dieu. Et ça veut dire quoi? Le Christ est médiateur, c'est-à-dire que par sa nature divine, il appartient à Dieu. Par sa nature humaine, il appartient aux hommes. Et cette question de nature divine et de nature humaine est absolument, évidemment, centrale. C'est le mystère, le grand mystère de notre foi. Mais qui est comme, comment dire, dans la passion. On voit les choses. Et donc, il est médiateur. C'est pour ça qu'il est vraiment unique sauveur. Le salut, Le salut, pour que ce soit le salut, il faut que ça vienne à la fois de l'extérieur, parce qu'aucun homme ne peut sauver un autre homme. Mais un Dieu qui n'aurait rien à voir avec nous, qui n'interviendrait pas dans, qui serait comme une réalité compacte et lointaine, non plus ne peut pas nous sauver. Parce qu'il faut de l'intérieur de l'humanité la sauver, tout en respectant, hein, notre nature humaine. Donc, seul un Dieu qui prend notre nature, hein, s'abaisse, et qui, tout en restant Dieu, seul ce Dieu-là peut être sauveur. Ça, parce que le salut doit venir de l'intérieur, du genre humain, mais il doit venir aussi de l'extérieur, l'œuvre de Dieu. C'est l'heure de Dieu. Je trouve ça intéressant de voir s'il y a quelque chose de glorieux dans la croix, justement. La croix est lumineuse, hein, parce qu'elle est au service de la réconciliation, parce que Christ est médiateur, donc il peut réconcilier et l'homme avec Dieu, parce qu'il appartient, pour ainsi dire, aux deux. Hein, il appartient aux deux. Et c'est intéressant, c'est important. Le Christ n'est pas personne humaine. Je rappelle, j'enfonce des portes ouvertes, parce que, mais au cas où vous ayez loupé une leçon de catéchisme, si tant est qu'on a pensé au catéchisme. Donc, un petit rappel, le Christ n'est pas personne humaine, c'est très important, ça. Parce que personne humaine, ni même lui, se sauverait. Il y a des tas de gens qui sont morts martyrs, qu'on a crucifiés. Mais ils n'ont sauvé personne. Ni même pas eux, d'une certaine manière. Mais justement, parce qu'il est verbe de Dieu, c'est-à-dire celui qui dit Dieu, hein, sujet, verbe, complément dans une phrase, hein, le verbe c'est quoi? C'est celui qui exprime une action du sujet. Et donc, le Christ est, en une seule parole, en un seul verbe, le Christ exprime tout Dieu. Ce verbe de Dieu a pris notre nature humaine. C'est-à-dire, c'est une personne divine qui a pris notre nature humaine. Évidemment, qui part, parce que personne divine a la nature divine. Donc, c'est cette union des deux qui fait que la croix, quelque part, est lumineuse. Sinon, c'est juste un absurde. Et c'est important de dire que notre vie, soit elle est absurde, soit elle est mystère. Parce que dans notre vie, il y a des tas de choses incompréhensibles. Il y a des tas de choses mystérieuses. On se dit, mais pourquoi j'en suis là? Pourquoi telle chose n'advient pas dans ma vie? Pourquoi j'ai l'impression parfois de repartir en arrière? Pourquoi. Voilà. Et bien justement, de dire que la passe du mystère, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui nous est encore fermé à notre intelligence humaine. On n'est pas dans la pleine vision, on est dans la foi. Et la foi, c'est un régime qu'on appelle d'indigence. Ça veut dire quoi, l'indigence? C'est un régime de pauvreté. C'est la foi faute de mieux. Faute de quoi? Faute du face-à-face. Dans le face-à-face, nous dit saint Paul, mais il n'y a plus la foi. Dans l'au-delà, il n'y a plus la foi. Reste simplement la charité. Et donc, je trouve ça intéressant d'avoir cette vision-là, de reprendre conscience que le Christ, justement, il est médiateur, et c'est pour ça qu'il est réconciliateur. C'est l'œuvre de la réconciliation, la croix. La croix, parce qu'elle est lumineuse, parce qu'elle réconcilie le genre humain avec le Père. Elle nous montre le chemin vers le Père. Nous indique le chemin vers le Père, la croix. Par le Christ, le Père traverse l'abîme du rejet de Dieu. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est une intuition théologique du cardinal von Balthasar, qui est maintenant décédé, qui a écrit toute une œuvre monumentale, hein, La gloire et la croix, en disant, le Christ est celui qui a traversé spirituellement, qui a expérimenté spirituellement le péché sans le commettre, mais les états spirituels, les états d'âme, il a été jusqu'au plus loin du rejet de Dieu. Le Christ, il a été jusqu'au plus loin du rejet de Dieu, intérieurement, spirituellement, dans son humanité, pas dans sa divinité, évidemment, vous comprenez ça, c'est dans son humanité, dans sa nature humaine, il a une vraie volonté humaine, une vraie sensibilité humaine, une vraie intelligence humaine, un vrai corps humain. Dans sa nature humaine, il a expérimenté spirituellement le rejet de Dieu, l'absence de Dieu, jusqu'à évidemment ce cri, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est-à-dire, on ne peut pas aller plus loin de Dieu que le Christ. Je laisse ça à votre méditation. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas s'éloigner plus de Dieu que le Christ, en son humanité. Et en même temps, on ne peut pas être plus proche de Dieu que le Christ, parce qu'il est le Verbe. Et c'est très beau, il a rejoint tous les états d'âme, hein, jusqu'à l'obscurcissement de la contemplation de Dieu dans son humanité. Donc cette intuition du cardinal Balthasar est vraiment assez... C'est une intuition, c'est pas de foi révélée, c'est pas dans le catéchisme, mais c'est intéressant comme il traverse le Christ traverse l'abîme du rejet de Dieu. De sorte que personne puisse se dire athée, athée, à privatif, c'est-à-dire sans Dieu. Parce que même s'il est dans le rejet le plus grand, le Christ a habité spirituellement ce rejet le plus grand. Il a expérimenté sans commettre l'acte. Parce qu'évidemment, c'est important. Il n'a pas péché, c'est capital, ça, parce que... Et c'est pour ça qu'il est solidaire. Il est solidaire du genre humain par la croix, justement parce qu'il n'a pas péché. Parce que le pécheur, c'est ce qui, au contraire, le péché, c'est ce qui sépare, c'est ce qui éloigne, c'est ce qui rend et l'autre étranger. Mais seul le saint dit, je ne peux pas dire je sans dire tu, je ne peux pas dire tu sans dire nous. Et le grand saint Paul dira, nous sommes membres les uns les autres. C'est pour ça que le Christ, en sa passion, expérimente spirituellement le péché, sans en commettre aucun, et parce qu'il est saint, parce qu'il est le saint, loin de Dieu, il est celui qui rejoint chaque personne humaine. Parce que tous, nous avons la nature humaine. Alors que s'il était personne humaine, il ne pourrait pas nous rejoindre. Ça, c'est capital. C'est capital dans notre foi. Il a la nature humaine. Il n'est pas personne humaine. Et donc, tous ceux qui sont de nature humaine, le Christ les a rejoints. Même celui qui va dans le plus grand rejet du Christ, le Christ l'a rejoint. Le Christ a habité spirituellement ce rejet. C'est assez vertigineux. Pour aller au Père, le Christ a traversé l'éloignement de façon que aucun lieu soit exempt de la miséricorde. En chaque lieu spirituel, en chaque état d'âme, sur cette terre, le Christ a habité pour que les vivants, parce que c'est le Dieu des vivants, ce n'est pas le Dieu des morts, pour que les vivants, en un point, parfois dans leur révolte, dans leur colère, rejettent Dieu alors qu'ils savent qu'il existe, mais que de leur vivant, ils puissent être rejoints par le Christ qui a expérimenté ce rejet de Dieu et y découvrir la miséricorde du Père. C'est énorme. Et donc, pour que la croix soit lumineuse, le Père doit se faire solidaire du péché du monde. Seul le Saint peut être solidaire. Il expérimente le péché sans le commettre. Et c'est par, comment est-ce qu'on voit cette solidarité du Christ avec le genre humain? C'est par l'angoisse. L'angoisse qui montre la solidarité du Fils avec le péché. La montée de l'angoisse, on voit l'angoisse comme aussi quand il monte à Jérusalem, au moment de la dernière scène, au moment du jardin des Oliviers, au moment de la crucifixion. L'angoisse, c'est le signe de la solidarité, de l'empathie du Christ avec tout le genre humain, du premier homme jusqu'au dernier, tous ceux qui partagent la nature humaine. Et c'est intéressant de voir qu'angoisse a la même origine qu'agonie. Et agonie en grec se dit agonia, et agonia, c'est veut dire combat. Combat spirituel. Le Christ au jardin des Oliviers a sué des sueurs de sang de son combat pour dire oui au Père, de ce oui éternel au Père comme fils, voilà, pour aller jusqu'au bout dans son humanité, jusqu'au bout du rejet de Dieu. Et plus il s'éloigne du Père spirituellement, dans son humanité, plus la souffrance due au péché augmente en lui. Et rajoute le Père von Balthasar, il ne sait pas pourquoi il souffre. Quand on sait pourquoi on souffre, c'est plus léger. Mais c'est seulement le oui qu'il a dit de toute éternité comme verbe de Dieu au Père, c'est sur ce oui-là qu'il s'appuie pour traverser l'abîme insondable. Par amour, il expérimente la distance d'avec le Père, prendre sur lui la malédiction. Et c'est vrai que quand vous relisez, je terminerai avec ça, la Passion, vous voyez l'œuvre du mystère d'iniquité. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le mystère d'iniquité. Le mystère d'iniquité, c'est le mystère du mal. Le mystère du mal. Le mal, le démon, à l'œuvre dans le monde. Et ce qui est assez étonnant, alors que Jésus n'était pas très connu du Sanhédrin, des grands prêtres, c'est un rabbi. Il y avait toute une ère, et on verra les Actes des Apôtres, de voir comment, au fond, il y avait des tas qui disaient je suis le Messie, etc. Et vous vous rappelez quand Gamaliel, justement, fait comparaître les apôtres, etc., et dit au Sanhédrin, mais faites attention de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. Il y a eu un tel, il a eu des disciples, il est mort, et les disciples sont dispersés. Il y a eu un tel, il a eu des disciples, il est mort, les disciples sont dispersés, et ceux-là sont encore devant nous. Et 2000 ans après, nous sommes devant ici, devant le monde. Donc c'est vraiment cette vraiment passé par la croix et vraiment l'œuvre du Père. Et l'œuvre du Père et quelque part prendre sur lui, hein, donc à travers ce mystère d'iniquité où on voit dans l'Évangile à un moment donné, il y a tout un enchaînement de haine. Le mystère d'iniquité, c'est la haine face au mystère de l'amour. C'est ça. C'est le démon qui se déchaîne face au mystère de l'amour qui se révèle. Et pourquoi la croix est nécessaire? Parce qu'elle est le révélateur de l'amour. Et donc on voit, alors qu'il était peu connu, etc., il est, voilà, on décide tout de suite de le faire mourir. Après l'épisode de la femme adultère, etc., on voit au chapitre 8e de Saint Luc, voilà, où on le voit en train de. Les autres veulent ramasser des pierres et lui jeter, et eux passant au milieu d'eux, aller son chemin, parce que l'heure n'était pas venue. Et puis encore, dans le récit de Saint Luc aussi, de la Passion, on voit le fait d'être lapidé, et à un moment donné, il y a comme une haine. Mais vraiment, c'est le mystère du mal, c'est le mystère d'iniquité contre le Christ et contre son Messie, contre loin de Dieu. Alors qu'il aurait pu très bien avoir un aveuglement, sans plus. Disons, non, c'est pas lui, cet homme blasphème. Mais bon, voilà, mais tant de haine, tant d'acharnement, tant de. Jusqu'à aller jusqu'aux autorités civiles, Ponce Pilate, jusqu'à la crucifixion, alors que c'est quand même l'abomination, c'est la peine très lourde. Hein. Pour nous, c'est normal, dit le bon Aaron, ce que nous avons fait, mais lui, il n'a rien fait. Voilà, c'est l'heure du Père, c'est l'accomplissement de l'heure du Père. Toute cette œuvre du Père de miséricorde va s'accomplir.